Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans un des numéros de Paris Match d'octobre 2012, Bertrand Lavier expliquait « Faire de l'art, c'est un jeu de l'esprit. Vous mettez les choses en abîme. Par exemple, en 1994, pour apporter ma pierre à l'histoire de la peinture abstraite, j'ai réalisé une grande surface monochrome intitulée Mandarine par Ducos et Ripollin. J'ai juxtaposé deux aplats de couleur orange afin de démontrer que sous l'étiquette Mandarine, il existe deux tons différents parce qu'issus de deux fabricants différents. C'est aussi une façon de prendre à contre-pied la notion de transcendance, trop souvent associée au monochrome. » Et Bertrand Lavier concluait dans le même entretien, par ces mots d'une évidente justesse, « Les artistes ont un devoir, faire ce qu'ils veulent, ce n'est jamais gagné, mais c'est le seul domaine où c'est possible. » Les œuvres de Bertrand Lavier sont exposées partout dans le monde. Ici, par exemple, il parle au micro de Laure Adler en 2010 de son travail, alors qu'il préparait une exposition chez Yvon Lombert à New York. Hors champ.
Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Bertrand Lavier. Quelle chance de vous avoir, Bertrand Lavier. Vous êtes un homme qui courait et prenait des avions parce que maintenant, quand on devient un artiste internationalement coté, reconnu, on passe sa vie dans les avions et vous arrivez de New York. 48 heures à New York.
48 heures à New York.
C'est d'un chic.
Oui, moi je trouve que c'est pas très chic. Je trouve que c'est plus chic de pas voyager, je trouve.
C'est le chic du chic, maintenant.
Ah ouais. Moi, je pense que c'est le chic du chic. Parce qu'autrement, il y a un côté un peu comme ça, VRP de soi-même, on paye de sa personne.
C'est ça, les artistes, maintenant, quand ils sont connus.
Oui. Enfin, c'est quand ils sont connus. Quand ils sont très, très connus, je crois, et donc reconnus. Il voyage presque pas.
Et pourquoi trop. 48 heures à New York?
48 heures parce que je prépare une exposition chez Yvon Lombert dans sa galerie de New York et que l'on réalise des néons, des tableaux en néon, et qu'il faut aller voir les techniciens, régler tous les petits détails et les gros détails. Et donc ça peut pas se faire, ça, évidemment, par Internet, par mail. Il faut vraiment être là.
Vous auriez pu être horticulteur?
J'aurais pu être architecte paysagiste parce qu'en fait, j'ai fait cette spécialisation-là quand j'étais à Versailles et ça me plaisait beaucoup. Et je pense que oui, je jardine peu, mais j'aurais volontiers fait ça, c'est vrai. Et alors, de temps en temps, je repique sur ce terrain de l'horticulture sur certains projets que je fais à l'extérieur. Et alors, le fait d'être un artiste donne une liberté que n'a pas forcément l'architecte paysagiste ou l'urbaniste de paysage. Parce qu'on a une casquette où on a d'emblée une liberté que n'a pas l'architecte paysagiste. Et j'ai fait des choses qui m'ont beaucoup amusé dans le genre, que j'aurais certainement pas pu faire si j'avais...
Par exemple,
sur un terrain vague... en Alsace, j'ai réalisé un détail du parterre du Midi de Versailles. Et donc, on a refait comme un cadrage photographique, comme un cadrage au sol, comme si on avait pris une sorte de le parcellaire est totalement aléatoire, et on a plaqué les dentelles de buis, l'allée, les plantations en fonction des saisons, avec les fleurs qui varient,
oui,
etc.
Donc vous y connaissez vraiment en plantes.
Ah ben oui, mais j'ai fait ces
l'école
études.
L'école de Versailles, oui. Ouais.
C'est une très belle école, hein. C'est, on est dans les potagers du roi. On mange les mêmes poires surgreffées depuis 400 ans, c'est drôle.
Oui, donc la sculpture végétale appartient à votre répertoire.
Oui, alors le problème, c'est que souvent, on est invité pour des choses assez précises. En fait, c'est pas un domaine aussi libre qu'on le penserait, le domaine de l'art. On est assez sur les rails et on a beaucoup d'efforts à faire justement pour en sortir de ces rails dans lesquels on vous met.
Oui, en tout cas, on vous catégorise pas dans les land art.
Non, ça, je suis pas du tout là-dedans. C'est-à-dire, moi, on me catégorise souvent dans, je sais pas, un peu post-conceptuel, enfin, des trucs un peu, ça veut pas dire grand-chose, post-conceptuel, mais c'est souvent ça, quand je vois des livres, tout ça, dans quel tiroir on m'a mis, c'est en général là-dedans. C'est un tiroir qui est sans grande qualité, en réalité.
Si, en tout cas, c'est assez précis parce que ça permet de situer historiquement la période à laquelle vous avez commencé à penser que vous pouviez être artiste. Oui, c'était une période très particulière de déconstruction, de postmodernisme, de réinvention d'un âge des possibles.
C'est effectivement ça qui m'a, ça a été ma fenêtre, la période que vous évoquez. Moi, je raconte ça souvent. J'avais ma petite chambre de bonne rue Bonaparte. Je passais devant un magasin qui était la galerie de Daniel Templon, toute petite. Je savais pas que c'était une galerie, donc je savais même pas que c'était de l'art. Et ce qui était en vitrine m'intriguait. Et effectivement, c'est vraiment ça. C'est pas un Van Gogh qui a été ma fenêtre pour me dire je voudrais m'intéresser vraiment à l'art. C'est plutôt ces premières recherches très radicales qui étaient sur l'art conceptuel à l'époque. Donc c'était Art and Language, Joseph Kosuth, des gens comme ça.
Et vous avez commencé à faire des photographies que vous avez repeintes.
Alors ça, j'ai fait ça un petit peu après. Les grands paysages, en fait, que je n'ai même pas repeints, parce qu'en fait, je faisais faire les photographies par un photographe à la chambre, avec beaucoup de moyens techniques. Donc, c'est des très belles photographies. Et puis, je demandais à un artiste peintre de me peindre la moitié droite de la photo. C'est des formats assez grands, hein, 3 mètres sur 2, c'est des panoramas. Et donc, il peignait sur la photo, et puis après, il continuait la photographie, il continuait de peindre sur le mur sur lequel était accrochée la photo, et donc, il inventait la troisième partie.
Et vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Eh bien, moi, j'étais l'artiste, et le peintre. J'avais un peintre et un photographe à mon service, je dirais. Donc, c'est une sorte de chef d'orchestre.
L'artiste, c'est-à-dire celui qui installait le processus par lequel, ce qu'on appelle maintenant dans l'art contemporain, le regardeur pouvait regarder.
Exactement. C'est ça que je voulais mettre aussi en scène. J'avais une main et un œil qui n'étaient pas les miens. J'avais l'œil du photographe. Je lui disais en gros ce que je voulais quand même. Et puis un peintre que je choisissais relativement anonyme. Il n'était pas complètement inconnu, mais j'ai changé de peintre plusieurs fois. Mais pour montrer que c'était de la peinture et de la photo. Et que tout ça, ça pouvait faire une œuvre de Bertrand Lavier, j'espérais à l'époque en tout cas.
Est-ce que vous vous considérez comme peintre?
Mais je dis ça souvent, oui, parce qu'en fait...
Parce que vous peignez
mais
aussi.
Mais je peins, parce que très souvent, les gens pensent que je ne peins pas les pianos et les réfrigérateurs et bien d'autres choses. Je ne les peins vraiment. Et même des gens
avec de la peinture à l'huile.
Avec de la peinture acrylique, assez épaisse. Et donc, en tout cas, en quantité, je suis vraiment un peintre. Je vous assure, j'utilise énormément de peinture. C'est très compliqué parce qu'évidemment, quand vous avez parlé de l'époque de la déconstruction dans laquelle on était rentré à la fin des années 60, début 70, ça a été une période très, très turbulente. Ou alors, il y a eu une tectonique des plaques, hein, on peut dire ça, dans le paysage de l'art, parce qu'il y a des peintres qui ne s'y retrouvaient pas. Ça s'est académisé sur un certain plan. Et donc, quand on ne faisait pas de la peinture, on va dire, pour faire simple, de chevalet, hein, même si on posait sa toile par terre, ouais, au sol et tout ça, on était dissident par rapport à cette tradition un peu, je dirais, académique. Donc moi, j'étais toujours un peu de l'autre côté de cette tradition-là. Donc je pense que mes pères, entre guillemets, auraient du mal à dire « Ah ben oui, lui, c'est un vrai peintre. » Bon, enfin, moi, je continue à dire que ça, je suis un peintre, je suis un sculpteur. Alors, dit, voilà, vous sculptez pas vraiment. Ben non, mais je fais quand même de la sculpture.
Vous n'allez pas échapper à Marcel Duchamp?
Non.
Nous allons l'écouter dans un entretien où il va faire le récit de ses premiers ready-made. Il va parler de l'idée de choix qui lui est consubstantielle. C'est un entretien avec Georges Charbonnier du 30 décembre 1960.
Le ready-made est l'idée suivante qui est venue par hasard, comme toutes les choses qui ont une valeur quelconque. Le fait, par exemple, j'avais chez moi une roue de bicyclette dans mon atelier en 13. Je pensais à un feu de bois. Et je pensais, quand on fait tourner cette roue de bicyclette, seule, ça rappelle un mouvement du feu de bois. Qu'est-ce que c'est l'agréable du feu de bois? C'est ce mouvement du feu dans la cheminée. Et j'ai comparé les deux, je veux dire, dans mon esprit, tout ça se passait dans mon esprit. Et j'ai pensé que moi qui n'avais pas de cheminée, de remplacer ma cheminée par une roue qui tourne. Donc j'ai mis ma roue sur un tabouret, et que chaque fois que je passais, je la faisais tourner. C'est au fond le premier ready-made dans ma vie. Vraiment, l'idée m'est venue, mais sans que ça doive avoir une continuation quelconque. C'était une chose qui m'amusait, et même le mot ready-made n'existait pas. Je ne m'en étais pas encore servi pour ça. Ensuite, alors, un an après, je crois, vers 14, oui, j'ai pensé à avoir des choses toutes faites. Dire pourquoi faire ? Qu'est-ce que c'est que faire ? Faire quelque chose, c'est choisir un tube de bleu, un tube de rouge, en mettre un peu sur sa palette, et toujours choisir la quantité de bleu, la quantité de rouge, et toujours choisir la place sur laquelle on va le mettre sur la toile, c'est toujours choisir. Alors, pour choisir, on peut se servir de tubes de couleur, on peut se servir de pinceau, mais on peut se servir aussi d'une chose toute faite, qui a été faite ou mécaniquement, ou par la main d'un autre homme, même si vous voulez, et se l'approprier, puisque c'est vous qui l'avez choisi. Et ça a été le début, et j'ai acheté ce jour-là un porte-bouteille au bazar de l'hôtel de ville, et je l'ai apporté chez moi. Et ça a été le premier ready-made. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de lui donner, dans ce choix, une sorte de drapeau ou une couleur qui n'était pas sortie d'un tube. Cette couleur, je l'ai obtenue en inscrivant sur le ready-made en question une phrase qui aussi, elle aussi, devait être d'essence poétique et souvent sans sens normal, arrivant à jouer avec des mots ou des choses comme ça. Je ne me rappelle même plus. Maintenant, je ne me rappelle plus parce que ce ready-made a été perdu. Je ne me rappelle plus la phrase que j'avais écrite dessus et je ne l'ai inscrite nulle part. Donc c'est fini, c'est perdu. Mais la réplique existe, on peut acheter encore un porte-bouteille du même type au bazar de l'hôtel de ville aujourd'hui. Je l'ai fait d'ailleurs, pas dernièrement, et j'ai une réplique de ce ready-made, mais qui me donne la même satisfaction. Parce que ça n'est pas du tout l'idée justement de l'œuvre d'art, comprenez-vous, c'est l'idée. Ça a été choisi et que, pour ainsi dire, c'est sacré parce que choisi.
Vous écoutez avec intensité Marcel ouais. Duchamp, on vous dit le fils de Marcel Duchamp, l'héritier, Bertrand Lavier. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propos ? Il y a beaucoup de choses là dans cet
oui,
entretien.
Oui, parce que ce qui est d'abord magnifique, c'est la fraîcheur que ça a conservé. On écoute ça en 2010, mais ça reste à la fois d'une légèreté et d'une acuité extraordinaire. Ça, je suis frappé par ça.
Par la démarche aussi.
Alors, la démarche, ça a été une déflagration. C'est-à-dire que, enfin, moi, je dis ça souvent, mais c'est à peu près aussi important que Brunelleschi qui change les règles de la perspective. Il a changé les règles de la perspective. Et donc, moi, j'en suis un des héritiers, mais je suis pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont bénéficié de cette déflagration, de ce Big Bang dans l'histoire de l'esthétique, où on pouvait prendre, s'approprier de la réalité et en faire, je dirais, évidemment, comme il le dit d'ailleurs, autre chose de poétique. Et ça, ça a été, effectivement, ça, pour moi, ça a été déterminant qu'il y ait eu ce grand personnage qui est décidé d'une autre règle perspective.
Alors, il y a eu toute cette période où vous avez travaillé sur les objets d'art ménager.
Oui.
Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ces objets ne sont plus disponibles. Alors, qu'on va vers une évolution, effectivement, de la disparition de ces objets, un peu comme l'a montré de manière assez visionnaire Jacques Tati, au fond.
Oui. Mais effectivement, moi, j'aime
la notion d'ustensile, la notion
de Jacques Tati, parce que pour moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ça a à voir, on aura peut-être l'occasion d'en parler, avec ce que j'aime, c'est la ligne claire. Hein, un grand artiste que j'aime beaucoup, qui est Raymond Hince, parlait de l'art net. Et donc toutes ces références-là du chant, c'est de l'art net, c'est la ligne claire. Ça veut dire que c'est très compliqué, hein, mais il y a cette clarté dans la ligne. Et dans les arts ménagers, tout ça est remplacé par d'autres. Moi, je me suis amusé à faire ça il y a une dizaine d'années. J'avais fait une exposition dans le musée à Genève qui s'appelait Exposition d'exposition, et j'avais rejoué des expositions que j'avais faites depuis une vingtaine d'années. Et donc, quand j'ai refait l'exposition des objets peints que j'avais fait chez Eric Fabre en 80, j'ai refait la même exposition, mais avec les objets de 2000. Donc, c'est effectivement, le réfrigérateur était devenu jaune, parce que on a coloré les réfrigérateurs en 20 ans, ils sont passés de blanc à rouge ou vert, etc. Et puis, il y avait d'autres catégories, d'autres familles d'objets, et j'ai pris les objets de 2000. Mais je me suis aperçu que ça, c'était amusant, parce que ça change pas grand chose, en fait.
C'est la forme qui change. Oui. La fonction n'a pas évolué.
Et le fond non plus.
Oui. Ouais. Mais en même temps, ce que vous montrez par votre démarche d'artiste, c'est que il y a des objets comme le cristal bic. Oui. Il y a d'autres qui évoluent avec le temps pour être plus fonctionnels et que vous allez détourner dans votre démarche d'artiste, Bertrand Lavier. Mais il y a aussi des objets, et dans votre œuvre, il y a des objets doudous, des objets fétiches qui, eux, ne changent jamais. C'est par exemple l'objet pour éteindre les incendies.
À l'extincteur.
L'extincteur, cherchais le mot. Oui. L'extincteur que vous avez ripolliné, que vous avez détourné, etc. Et celui-là, c'est comme le cristal bic. Pourquoi il ne change pas ?
Mais parce que je crois que c'est lié à... D'abord, c'est très fonctionnel, cette histoire. Il faut... C'est un repère dans l'espace. Ça sert quand même... C'est un objet...
Qui sert peu.
Heureusement.
Heureusement.
Mais il faut qu'on sache, il faut qu'on puisse l'identifier tout de suite. Et donc il faut qu'il ne change pas de forme, c'est qu'on l'ait dans l'œil, comme ça, de génération en génération.
On sache où il est dans une pièce.
Voilà. Et puis alors, bon, on le voit, il est rouge, ça dépend des pays. Aux États-Unis, il est souvent métallisé argent. Lorsque je suis spécialiste des extincteurs, en Suisse, il est bleu marine, avec quand même un F rouge qui est au-dessus, quand même, pour rester un peu dans la chaleur du feu. Mais, c'est vrai, ça bouge pas. Mais, moi, ça m'avait beaucoup intéressé parce que c'était presque l'objet qui était exposé de toute façon dans les musées. Il était là avant moi. Quand vous rentrez dans un musée, l'extincteur est la pièce, centrale, parce que c'est, quoi qu'on mette un Monet, un Pissarro, Christian Boltanski ou je sais pas qui, il y aura un extincteur de toute façon qui est là. Donc j'ai souvent fait ça, de repeindre des extincteurs dans les salles de musée. Et les gens, souvent, il y a un côté trompe-l'œil, comme ça, ils ne voient pas toujours ça, c'est marrant.
Mais grâce à vous, on voit les extincteurs autrement.
Peut-être, oui. Oui. Ben, je pense que c'est souvent comme ça, si on ne loupe pas trop sa cible, d'essayer de faire voir les choses un petit peu autrement, des choses qu'on connaissait par cœur. On se dit, et les artistes vous donnent c'est souvent un tout petit déplacement, non, de pas grand-chose. Souvent, quand ce n'est pas grand-chose, c'est là où c'est le plus spectaculaire, finalement, dans l'art.
Décalage, oui. Distorsion, oui. Manière oblique.
Oui, tous ces mots-là me conviennent. Ouais. Un tout petit glissement et puis ça change tout.
Glissement qui n'est pas vacillement.
Mais non, alors glissement qui permet un petit peu de l'éviter.
C'est pas l'effondrement.
Ah non, moi je ne suis pas du tout pour l'effondrement. Moi je ne suis pas du tout pour la catastrophe. J'aime la violence. Quand j'expose une voiture accidentée ou des pylônes tordus par la tempête, tout ça, la violence m'intéresse. J'aime bien jouer avec ça, la vitesse et tout ça. Mais le drame, je respecte tout ça, mais c'est pas pour moi.
Vous êtes un grand sentimental, au fond, Bertrand Lavier.
C'est probable, oui.
Vous venez de parler de voitures écrasées, etc. Il y a eu toute la série sur la Giulietta.
Oui, oui.
Et ça, c'était un magnifique hommage aussi à des...
Au cinéma aussi, ouais.
Au cinéma, mais aussi à des objets, à des voitures. Il y a un sentimentalisme dans votre œuvre qui fait référence à tous ces objets, à toutes ces... Tous ces véhicules qui nous ont transportés, à toutes ces musiques, à tous ces cinémas qui impriment nos imaginaires. et qui n'en sortiront jamais.
Ça me touche beaucoup, ce que vous me dites là, parce qu'en réalité, on a très souvent, à mon sujet, enfin, c'est ce que je remarque, à intellectualiser ça de manière un peu froide. Et c'est vraiment...
Moi, je trouve que vous nous faites battre le cœur, hein.
Alors, mais moi, c'est pas du tout mon monde. Et donc, quand on peut incarner ça, et je fais des efforts, entre guillemets, pour justement montrer la poétique qu'il peut y avoir dans tout ça. Et pour en venir à l'interview de Duchamp par Charbonnier qu'on a écouté tout à l'heure, c'est magnifique de l'entendre parler du parfum poétique qu'il veut donner sur l'aura d'une chose qui est extrêmement froide, comme un porte-bouteille ou d'autres objets qu'il a utilisés. Donc ça, je crois que c'est important d'avoir cette aura qui vient planer au-dessus des choses et qu'on peut sentir. Et j'essaie de faire ça. Oui, c'est
vous
vrai.
Dites aura d'une chose.
Oui, mais oui, parce que il y a la
chose. C'est collectif, c'est pas l'objet lui-même qui dégage cette aura, c'est le fait que nous sommes des millions à avoir regardé un objet.
Oui.
Et que vous, en tant qu'artiste, vous allez nous en restituer tout ce que nous avons ressenti, oui, sans même en avoir été conscient, au fond.
Voilà, il y a un côté comme ça, passeur, un peu médium, où on est là, c'est assez mystérieux, on peut pas faire exprès ça, tant mieux. Mais il y a tout de même cette manière de titiller cette chose qui est autour de ces objets dont on dit comme ça, effectivement, qui sont partagés par un grand nombre, qui ont fasciné. Et à la fois, il faut être le premier surpris soi-même, hein, parce qu'on va faire, on prémédite pas autant que ça, hein, faut quand même bien savoir ça. Moi, j'essaie d'avoir beaucoup d'idées préconçues, mais finalement, je suis toujours surpris, tant mieux. Il faut vraiment se laisser porter par les objets qui vous ont peut-être choisi. Quand on parlait de la Giulietta, cette voiture m'attendait en réalité.
Comment ça ?
Parce que je cherchais, non pas une voiture accidentée, je cherchais une Alfa Romeo rouge et tout ça. Donc c'était très précis mon cahier des charges pour trouver cette sculpture. Donc j'ai arpenté des cases pendant des mois. Et donc c'était un travail absolument aberrant, hein, d'aller voir des voitures accidentées. Je m'étais imposé moi-même, justement par rapport au drame que je n'aime pas surligner, je m'étais imposé qu'il n'y ait pas eu de mort dans la voiture. Donc, et ça, je communiquais aussi là-dessus en disant je n'utilise pas la mort.
Ah oui, donc vous pensez vraiment que les objets ont une âme?
Ah ben oui, sans doute, oui. Ah ben, je ne suis pas le seul, hein, mais c'est vrai, moi je continue à penser ça. Et donc, un jour...
Et pourquoi l'alpha?
Ben l'alpha rouge, c'est le cliché de mon enfance, et à la fois qui a été repris par beaucoup de... Si on pense au mépris, enfin, les cinéma, bon. Et puis... Bon, on sait ou on ne sait pas, mais j'aime beaucoup les voitures. Mais, et donc, quand j'étais enfant, la voiture rouge était pour moi le point d'orgue du rêve.
Oui, donc il y a dans votre travail beaucoup de retours d'enfance aussi.
Ah ben oui, absolument, ça, on n'échappe pas à ça. Et moi, je pense souvent ça. Quelquefois, on peut être ses propres enfants. c'est étrange de dire ça, mais souvent, on me dit, moi, je vis avec Gloria Friedman...
Que nous avons reçu ici, à Orchamps. Ouais.
Et souvent, c'est une question sociale que on pose souvent aux couples. Vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Et alors, on a cette chose qui est très liée à ce qu'on évoque là. Nous sommes nos propres enfants. Et il y a une chose qui est très... C'est complexe, hein. Mais on vit aussi avec ça.
Comment ça ? Vous êtes vos propres enfants. C'est très étrange ce que vous venez de dire, oui, parce que vous avez évoqué aussi Christian Boltanski.
Oui.
Dont vous êtes proche artistiquement, ouais, et très proche aussi, ouais, amicalement. Ouais. Christian Boltanski vit avec Annette Messager, ouais, que nous avons aussi reçue ici.
Ouais, ouais.
Et vous êtes deux couples d'artistes, ouais, majeurs. Ouais. Vous n'avez pas d'enfants,
ouais,
ni eux, ni vous.
Ouais.
Et en même temps, vous êtes en train de nous dire que vous êtes vos propres enfants.
Oui, alors ça, je ne sais pas ce qu'on dirait à Annette Messager ou Christian Boltanski, parce que c'est une chose qu'on n'a jamais évoquée vraiment avec eux. Mais en tout cas, Gloria et moi, c'est une chose, parce que la manière dont, dans notre quotidien, de jouer avec tous ces registres de l'enfance qui est totalement présente, et donc, on vit ce grand spectre de la vie où l'enfance qu'on a eue reste extrêmement prégnante pour continuer à filtrer le quotidien.
Nécessaire.
Oui, alors ça donne une capacité sûrement de rêver et de décoller très facilement, ce que font les enfants avec énormément d'élégance. Hein. Ils décollent tout de suite et ils sont passés dans un monde... La fiction et la réalité, pour eux, c'est un tissu extrêmement complexe. Et moi, j'essaie souvent de retrouver ça à ma mesure.
Pour en venir à cette série sur la Giulietta, donc d'abord la petite voiture rouge de l'enfance. Oui. Ensuite, le mépris, Jean-Luc Godard, la voiture à la mode, la voiture de la Dolce Vita. Ensuite, les casses. Ouais. Ensuite, pas de mort dans la voiture, mais une voiture accidentée. Ouais. Donc, comment passer d'une idée à la réalisation, comme vous l'avez fait ?
Il faut avoir une idée assez grossière, mais quand même assez précise aussi, de ce qu'on va montrer. Et vous allez voir que c'est assez simple. En réalité, sur le résultat, je voulais une voiture qui est bien tapée. Hein, c'est qu'elle est tapée de partout. Donc tout ça, c'est compliqué. Et donc, il fallait qu'elle soit accidentée, mais dont on sente vraiment qu'elle était rentrée déjà dans le monde de la sculpture. Et je vous raconte l'anecdote qui est très éclairante. J'avais stocké cette voiture en Bourgogne.
Où vous habitez.
Où j'habite la moitié du temps. Et quand on a monté cette voiture pour l'exposer à Paris, à la galerie, elle était sur un plateau et le conducteur du petit camion s'est arrêté pour prendre de l'essence sur l'autoroute. Elle n'était pas bâchée, il faisait beau. Et quand il s'est arrêté, les gens ont vu cette voiture sur son camion et lui ont dit spontanément, les gens qui étaient là, « Ah mais ça doit être une sculpture ». C'est-à-dire que les gens avaient déjà fait aussi la sculpture en la voyant sur le camion, qui n'était quand même pas le meilleur socle pour ça. Hein. Et donc, ça m'a rassuré. Je me dis, voilà, on fait l'exposition.
Oui, mais vous êtes intervenu sur la voiture.
Ah, je n'ai rien fait. Ah non, sur la Giulietta, je n'ai rien fait du tout.
Pas sauf de la trouver.
Oui, absolument.
Au bout de combien de temps?
Ah, ça a été une quête de 6 ou 7 mois, ce qui fait que le marchand d'ailleurs s'arrêtait les cheveux parce qu'il avait programmé l'exposition. J'ai dit, j'ai pas trouvé, j'ai pas la voiture. Et donc je voulais ça. Et donc il m'envoyait des photos. J'ai dit non, ça va pas. Et donc c'est pour ça que je vous dis, elle m'attendait.
Vous avez évoqué le nom de Raymond Hens.
Oui.
Nous allons l'écouter. Il va parler des conditions dans lesquelles il a découvert l'affiche lacérée, qui l'a rendue célèbre et qui a fait école, et comment il est devenu, un peu comme vous d'ailleurs, ravisseur d'affiches déchirées. C'était dans un entretien avec Jean Dève, le 17 juin 1981.
J'ai exposé des photos en 48 et c'est en 49 que j'ai dû voir des affiches au bas de la rue de Rennes. Alors il y avait une palissade devant la cour du Dragon. Sur cette palissade, j'ai vu des affiches qui m'intéressaient. J'ai voulu commencer un film en noir et blanc. Et alors il y avait aussi le clocher de Saint-Germain-des-Prés qui était recouvert d'un échafaudage tubulaire en forme de pyramide précolombienne. Alors j'avais appelé ça Saint-Germain des Précolombiens. Mais après avoir fait c'était un petit essai quoi, d'une bobine de film 16 mm. Alors j'ai voulu essayer la couleur parce que j'étais en train de traîner une caméra Bayard. Alors, j'ai acheté une bobine de Kodachrome, mais quand je suis retourné sur les lieux, bien l'affiche était recouverte. L'affiche qui avait été collée par-dessus a été déchirée. Et alors, c'est comme ça que je suis revenu avec la caméra. Et puis, il n'y avait plus rien. Et quelques jours plus tard, j'étais à la porte d'Orléans. Et alors là, j'ai vu des affiches avec le personnage des vins Nicolas, Nectar. Et alors, il y avait une rangée de Nectar, et ça m'avait fait penser aux mosaïques de Ravenne, parce qu'il y avait eu, c'est ça, il faudrait peut-être vérifier tout ça, mais il y a eu, je crois, une exposition des mosaïques de Ravenne à ce moment-là. Et alors, j'avais pensé à l'impératrice Théodora et sa cour, ou à Théodose, en voyant toute cette rangée de personnages. Et puis, j'ai fait un petit film dont j'étais assez content. Enfin, et alors, finalement, le film des affiches, il devait s'appeler « Loi du 29 juillet 1880 », n'a jamais été terminé. Parce que j'ai trouvé qu'il était plus commode de filmer dans un studio. Et c'est pour ça que j'ai arraché des affiches. Par la suite, j'ai trouvé très bien d'en mettre au mur de ma chambre. Mais enfin, je n'ai pas pensé tout de suite, je ne me suis pas dit que j'allais faire une exposition avec des affiches déchirées. Ce n'est pas venu comme ça d'un coup.
Alors, c'est drôle d'entendre l'association d'idées qui prévaut effectivement à la démarche artistique de Raymond Hens.
Ouais.
Et en même temps, vous aimez cet artiste. Mais quand on considère votre œuvre, Bertrand Lavier, il n'y a pas de lacération, il n'y a pas de disparition, il y a au contraire une surexposition. On a parlé de certains objets ménagers, on a parlé de cette Giulietta accidentée qui devient sculpture. Il y a eu aussi toute cette série sur la peinture qui est absolument incroyable. Par exemple, j'ai devant moi Orange par Ducos et Ripollin. C'est une œuvre de 1990, huile sur toile. Donc là, c'est surexposition de la peinture par la peinture.
Oui, mais ça nous ramène justement à Raymond, hein, ce qu'on vient d'écouter, parce qu'en fait, le grand lien, c'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, comme artiste et comme personnalité. Et le lien vraiment précis que nous pouvions avoir, c'est sur le plan du langage. Raymond était une sorte de grand décodeur comme ça du langage, presque lacanien sur un certain plan. C'était très très intéressant. Et moi, ça m'a toujours habité ce principe du des mots et des choses, hein, pour faire simple. Et donc, on s'aperçoit dans le tableau que vous décrivez que orange ou géranium, tout ça, ça correspond à des choses que tout le monde connaît. Mais en réalité, quand on veut serrer cette réalité de près, elle vous échappe tout le temps. Et donc, ce tableau, cette peinture, parle explicitement de ça. Donc, on est devant un problème sans solution, on ne saura jamais ce que c'est que la couleur orange, précisément.
Oui, donc ce
grâce
que vous cherchez,
Ducos, c'est... Grâce à Ripollin.
Ouais. Ce que vous cherchez, c'est l'insondable.
Oui, c'est...
Ce qui s'échappe par définition.
Voilà.
Ce qui ne peut pas se saisir.
Oui. Alors, une des premières œuvres que j'ai faites, je remonterai ça à Paris là, dans 2 ans, C'est une œuvre qui s'appelle Polished et qui est une chose comme ça qui peut paraître un peu fastidieuse mais à décrire, mais c'est assez agréable à regarder. C'est un texte, un tout petit texte, il décrit un petit objet en bois et ce texte écrit en français est traduit en anglais, d'anglais en russe, de russe en chinois, etc. Et on refait l'objet en fonction de la nouvelle traduction et s'aperçoit que cet objet change tout le temps. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir tous ces interstices qu'il y a dans la traduction, mais dans le langage, qui fait que plus on adjective une réalité, plus elle vous file entre les doigts. Et que c'est sans fin, et qu'à la fois, c'est ça qui donne, je pense, une certaine poétique à la vie. C'est-à-dire que c'est ce qui file entre les doigts qui est le véritable matériau poétique. Chose qu'on retient sont malheureusement lourdes.
En fait, vous êtes comme une sorte de sourcier de nos imaginaires.
Oui, j'aimerais bien en tout cas. Ouais.
Vous avez donc consacré toute une série à Walt Disney.
Ouais.
Nous allons écouter sa voix.
Well, it started in our research. Well, I think back as far as Bambi. Before I produced Bambi, we went out and took a lot of film of the animals and the wild life that we were going to use, and we used them as study reels. With groups of artists, we'd run the film, because you couldn't have the animal there, so we'd run the film, we would study the movements of the animals, and I think that sort of started it. We found a lot of things there that were cuter in the real photography than we could ever draw on, you know? And I just felt that there was a field there, and when the opportunity presented itself, I put one together.
Walt Disney explique que cette idée de se servir du matériel photographique ou cinématographique plus exactement au lieu du dessin animé, mais en employant la technique du dessin animé, lui est venue au moment où il préparait Bambi. Et pour la documentation de Bambi, pour l'étude même des mouvements d'animaux qu'il devait reproduire par le dessin de Bambi, il a recueilli et projeté sans arrêt de très nombreux films sur les animaux, des films donc semblables à ceux des documentaires que nous avons vus. Et alors, en analysant ces films, en les étudiant du point de vue justement du dessin animé, il s'est aperçu qu'il se trouvait parfois en face d'une matière première qui lui paraissait plus riche ou dotée de plus de possibilités que le dessin animé lui-même. Et c'est de là que lui est venue l'idée de sa série qui a commencé par l'île des phoques et dont nous avons vu en dernier lieu les animaux aquatiques. Cette série où le matériau photographique brut, direct, pris sur la nature, peinture même sert à la composition d'un véritable dessin animé par la correspondance exacte du mouvement et de la musique.
Vous entendez pour la première fois la voix de Walt Disney, c'était en 1953.
J'ai fait exactement la même chose avec lui.
C'est ce que je pensais en écoutant l'archive.
Oui, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que lui s'est intéressé au monde de la sculpture, etc. Moi, j'ai scanné et pris des logiciels 3D pour refaire en trois dimensions les sculptures qu'il avait dessinées dans ses comics, dans ses histoires de Mickey au Musée d'Art Moderne. Et en réalité, je m'apercevais que ces sculptures avaient des qualités qui étaient beaucoup plus intéressantes que si on les avait faites réellement, si on en avait voulu en inventer de comparables. Et donc, c'est quand je l'entends de voir comment il a pu donner corps à Bambi, j'ai pris finalement, sans le savoir, la même méthode.
Ce que vous n'avez pas dit, Bertrand Lavier, c'est à quel point vous ouvrez d'abord les yeux sur le lieu où vous allez exposer. Tout à l'heure, vous avez dit que effectivement, il y avait toujours un extincteur dans n'importe quel musée et que donc vous en avez fait un objet de votre démarche artistique. Mais l'une de vos très grandes dernières expositions se tenait à la Villa Médicis. Ouais. Et là, combien de temps avez-vous passé dans cette Villa Médicis pour pouvoir l'appréhender, la détourner, la singulariser ?
Ah, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai dû y aller au moins 4 ou 5 fois pour savoir comment on allait articuler ça. Parce que moi, je trouve que les expositions, c'est souvent comme la comparaison du concert. On donne un concert dans un endroit, dans une ville, et l'acoustique du lieu, mais même de la ville, est toujours très spécifique. Là, je reviens de New York, l'acoustique de New York, c'est pas l'acoustique de Paris. Et donc, on n'expose pas de la même manière. Et il y a à chaque fois des spécificités que je trouve intéressantes. Alors, tout à l'heure, j'étais là, je faisais un peu chochotte en disant « oui, on voyage trop et tout ça ». Mais ça a quand même des avantages, parce que par exemple, je me suis aperçu que les néons new-yorkais ont une vibration et une couleur que n'ont pas les tubes de néons européens. Et donc, je vais avoir une touche, entre guillemets, totalement spécifique dans cette exposition avec ces néons qui vont avoir une vibration très new-yorkaise que j'aurais pas imaginé.
Et la Villa Médicis, on sent que c'est le côté
la Villa Médicis,
dédale, labyrinthe, mystérieux.
Comment on va faire un concert
sauvage?
Voilà, comment on va faire un concert dans une exposition dans un endroit aussi compliqué avec l'endroit qui est le juge de paix pour tous les Romains. J'avais appris, je le savais avant d'y aller, ils m'ont dit la difficulté, c'est cette grande salle avec cette grande montée d'escalier qui servait pour faire monter les chevaux. Alors ça, c'est effectivement une salle qui était casse-gueule. Comment on organise ça et comment on va phraser en fonction de toutes ces salles. Je sais pas, il y a une dizaine de salles, les jardins. Et effectivement, l'exposition qu'on fait dans un lieu comme ça, on peut absolument, il est hors de question de la refaire ailleurs.
Donc à chaque lieu, la possibilité pour vous, l'artiste, de pouvoir décaler, donner votre touche. On parle du style Lavier. Vous êtes d'accord avec ce mot ?
J'aimerais bien.
Comment vous le définiriez, ce style ? De l'extraction, justement, de ces objets usuels et de cette manière
qu'on
de détourner notre regard.
Moi, je dirais, alors c'est pour revenir à mes premiers amours, c'est très très lié à la greffe. Je dirais que si on pouvait faire, c'est très lié à la greffe, avec tout ce que ça peut avoir de poétique. C'est que 1 + 1, ça fait un autre 1, ça fait pas 3 ni 2. Et donc, c'est plus ça que j'essaie de bricoler. Plastiquement, ça prend des... formellement, c'est très très différent. C'est très hétérogène, ma production, entre guillemets.
Quand vous parlez de greffe, vous parlez par exemple de toute cette période où vous avez fait des superpositions, par exemple un frigidaire et au-dessus un coffre-fort. C'est ça la greffe.
C'est ça la greffe, mais c'est aussi la greffe, c'est de prendre une sculpture africaine, de la faire mouler à la cire perdue, la faire tirer en bronze à plusieurs exemplaires et de la niqueler. Ça, c'est une greffe peut-être un peu ethnocentrée, je veux bien, mais on prend de l'art primitif et puis on greffe une technique totalement occidentale qui est celle du tirage en bronze, et donc une sculpture primitive n'existe pas à plusieurs exemplaires. Là, d'un seul coup, elle se trouve projetée de manière assez violente, d'ailleurs, dans le monde de la production de la sculpture occidentale, à plusieurs exemplaires, est recouverte d'un matériau comme ça, qui est le nickel, qui est une chose, évidemment, qui est aux antipodes des bois exotiques. Ça, pour moi, c'est de la greffe. Et évidemment, ça crée des effets qui sont très curieux. Bon, il y a un certain nombre de gens qui regardaient ça, me disaient, finalement, vous avez enlevé la peur qu'il peut y avoir dans ces objets primitifs. Bon, c'était pas le projet que j'avais, mais on voit bien que il y a une manière d'approcher à nouveau ces objets au sens large, nouvelle. Et donc, si on voulait définir le style, ça serait, voilà, je pense, c'est général comme terme, je dirais un peu ça. Mais ça, si on peut parler d'un style, ça c'est vrai, j'aimerais bien. Moi, c'est ce que je préfère. En littérature, moi, je préfère c'est les stylistes que je préfère.
En fait, vous êtes un artiste qui suivait très attentivement les évolutions de la technologie et vous l'introduisez à l'intérieur de votre démarche.
Oui.
Tout en vous en dégageant complètement.
Voilà. Alors, c'est assez compliqué. Je suis ça de loin, mais en réalité, j'essaie on suit une démarche très parallèle, la technique et moi. On se parle pas, mais on avance. Et donc, quand j'en ai besoin.
Mais vous la maîtrisez quand même.
Oui, mais j'ai des gens qui m'aident beaucoup à la maîtriser. Hein. Moi, j'ai beaucoup de pages jaunes avec moi, hein. Beaucoup de techniciens, de gens qui m'aident. Mais c'est vrai que souvent, j'essaie de faire plier la technique au projet que j'ai en tête. Même pour des choses très simples, quand on évoquait les néons, tout à l'heure, ces tableaux, moi, j'ai dit ça de manière un peu ironique, mais c'est en fait, je pense vraiment ça. J'essaie de renouveler le genre de la peinture en tube. En faisant des tableaux avec des tubes de néon extrêmement serrés dans une densité très forte. Vous allez voir un néoniste, spontanément, il dit, on ne peut pas faire ça. Pourtant, vous avez envie que d'y arriver. Et donc, c'est là où le travail le dialogue avec la technique et puis l'artiste se met en place pour arriver, même pas à un compromis, pour arriver à un résultat. Et alors, effectivement, quand on parlait des Walt Disney tout à l'heure, je n'aurais jamais pu faire les sculptures de Walt Disney il y a 15 ans, parce que le logiciel 3D n'existait pas.
Nous allons écouter la voix de Robert Rauschenberg, qui va parler de la pop culture et des rapports entre l'art et la vie. C'était au cours d'une conférence de presse en 1980, à l'occasion de cette grande rétrospective qui lui était consacrée à Berlin.
I was actually through. With the pop culture, before the pop culture defined itself, what was considered the beginning of pop art in my work was done between 15 and 20 years before there was such a thing as pop art. And by then I was considered half a dozen other things.
J'avais déjà fini avec la culture pop avant qu'il y ait une définition de la culture pop. Je veux dire que ce qui a été considéré comme le début du pop art dans mes travaux a été effectué 15 ou 20 ans avant qu'il y ait une chose comme le pop art, et après j'ai fait bien d'autres choses.
Do you think your kind of art making, your kind of painting, has diminished the gap between art and life?
Considérez-vous que votre façon de faire l'art, que votre peinture ait aboli la marge qui existe entre l'art et la vie?
I think the gap is really filled in. There's been so many conceptual attitudes that is at the time when I made that statement about the gap between art and life, the separation between the two was so exaggerated. But since then,
je crois effectivement que j'ai aboli la marge. Il y avait tant d'additifs conceptionnels à l'époque où j'ai constaté cette marge entre l'art et la vie. Cette opération entre les deux a été tellement exagérée.
I think that the art world has both gotten more frantic, but it's also relaxed more, so that that the hierarchy of what exactly is art is a lot less certain. It's very common now for a painter to be just as involved in video and dance and theater and sound as it was uncommon at the time that I said that. Because when I said that, made that statement, the professional distinctions were also exaggerated.
Je pense que depuis le monde de l'art est devenu de plus en plus fou, mais aussi plus décontracté, de telle façon que l'hiérarchie dans le domaine de l'art est beaucoup moins certaine. Il est beaucoup plus facile pour un peintre de dire aujourd'hui ceci est contenu dans la vidéo, ou dans la danse, ou dans le théâtre, ou dans le son, tandis qu'il était beaucoup plus difficile de présenter les choses de cette façon à l'époque où je l'ai dit, Parce qu'au moment où j'ai fait ces constatations, les distinctions professionnelles aussi étaient exagérées.
Et aujourd'hui, Bertrand Lavier, on vit dans quel monde ?
Je trouve qu'on vit dans un monde qui s'est... ça s'est clarifié en réalité, cette question-là. Moi, je dirais simplement que l'art, ça prouve que la vie ne suffit pas. Donc la frontière, c'est un faux problème de savoir si l'art est la vie. Vous savez, par exemple, on cite à tout bout de champ cette magnifique phrase, mais idiote et magnifique à la fois, de Robert Filliou, qui dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Bon, c'est très très joli, mais c'est idiot. Mais c'est très beau. Et donc moi je crois des choses très différentes par rapport à ça. Je trouve que l'art justement est une création qui vient planer au-dessus du réel, comme une sorte d'ange. Et moi, je pense que c'est ce pari-là aujourd'hui qui devient cette vision-là même qui devient plus claire aujourd'hui. Parce que évidemment, on a défriché énormément de terrain. Bon, l'art, ça progresse pas, mais les artistes font des progrès eux-mêmes. Moi, pour moi, je pense que cette question-là devient presque, voilà, assez claire. On voit ça en littérature. Bon, en France, on est un pays plus littéraire qu'artiste. Les Français sont plus littéraires qu'artistes, on va dire ça. Ils voient très bien que, voilà, la littérature, c'est bien pour montrer que la vie ne suffit pas, etc.
Bah, vous nous rendez la vie peut-être plus belle, plus étrange, plus mystérieuse. Merci, Bertrand Lavier.
C'est moi qui vous remercie, Laure.
On va demander à notre PDG qui, Bertrand, nous fasse une lovely night devant la maison de la radio avec des pensées.
Avec des pensées sauvages.
Ouais. Rémi Fessard, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde, toute l'équipe de Hors Champ vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de France Culture.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 décembre 2010. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site des Nuits par franceculture.fr.
Of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy and never ever think of counting sheep. Has learned its lesson. You'd be his if only he would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you'd miss him most of all. Lesson, you'd be his. if only he would call in the wee